Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Morphism, un nouveau podcast, donc c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler du sujet suivant qui est « Quelles sont les bonnes pratiques pour se faire recruter en tant que designer ?»
En plus, ce qui est trop cool, c'est qu'ici, on a deux personnes avec une expérience totalement différente. Lui, Dylan, ça fait un peu 1 à 2 ans qu'il est dans le domaine professionnel. Et moi, même pour mon âge, ça fait 5-6 ans que je passe des entretiens. Et en plus, j'ai une mini-expérience de RH, donc ça, c'est grave cool. Vous allez pouvoir vous identifier aux deux personnes.
Donc, ce podcast sera séparé en 3 parties. Donc, ce qu'il faut faire avant l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien.
Donc, c'est parti!
Pour commencer, généralement, dans les écoles, on nous dit souvent d'avoir des hard et des soft skills dans le domaine que l'on exerce.
Ici, le design.
Pour moi, ça ne fait pas tout. Il faut aussi avoir le bon mindset. Qu'est-ce que ça veut dire?
Avoir le bon mindset, c'est avoir le bon état d'esprit et être soi-même. Peut-être que tout au long de votre vie, on vous a dit que vous étiez différent, vous étiez bizarre, mais c'est pas du tout pénalisant. Au contraire, faut en faire une force. Donc dit comme ça, ça peut paraître facile. Mais je vous jure qu'à chaque fois, on me dit que moi, je suis assez bizarre et différenciante. Et finalement, c'est toujours ces points-là qui étaient différents des autres qui sont ressortis. Donc faites-en vraiment une force pour votre personnalité. Quand vous allez cibler vos entreprises, le but, c'est pas d'avoir un panel de 50 entreprises à qui on va envoyer un max de CV et de lettres de motivation. Le mieux, c'est d'avoir un petit panel d'entreprises à laquelle vous allez vous intéresser à fond, donc 3 à 5 vraiment maximum. Vous allez pouvoir regarder sur quels réseaux sociaux ils font, ce qu'ils partagent, quelles sont les valeurs qu'ils communiquent, sur lesquelles vraiment ils sont fondés, s'ils ont un site, etc.
Généralement, sur ça, on nous dit souvent à l'école, par exemple, moi de mon expérience, c'est postuler dans 100 entreprises, sinon ça veut dire que vous n'avez pas fait une bonne recherche. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec cette méthode-là. Et je préfère faire comme tu as dit, 3 à 5 entreprises et les cibler vraiment pour pouvoir comprendre en fait directement les entreprises en question où tu as envie de postuler.
C'est ça, j'ai fait les deux choses. Et à chaque fois, ce qui marchait le mieux, ce qui est normal quand on s'intéresse par exemple à une personne et quand on veut la séduire, c'est un peu la même chose ici dans le recrutement. Vous n'allez pas vous intéresser à 50 personnes, vous intéressez à une personne et vous donnez à fond pour lui donner un maximum d'attention. Ici, c'est un peu la même chose.
Exactement. Un autre élément que je voulais aussi partager, c'est le fait de s'inspirer. Donc là, ce que j'entends par là, c'est oui, en général, vous allez vouloir vous dire, mais s'inspirer, on doit faire ça en dehors d'une préparation d'un entretien.
Pour la veille, notamment.
Oui, voilà, c'est ça. Mais ça sert aussi pour l'entretien. On va y revenir par la suite. Mais donc, ce que je veux dire par s'inspirer, c'est aller regarder sur des sites comme Dribbble, Behance, Pinterest ou encore Codrops. Donc ça, c'est un site que j'ai envie de vous partager, qui est souvent connu des développeurs, qui est un site qui montre du front-end, donc de l'animation et vraiment des sites ultra beaux, ultra graphiques et tout. Et je trouve que c'est vachement intéressant pour aussi s'inspirer. Et la deuxième chose, c'est s'exercer. Donc tu avais aussi quelque chose à nous partager là-dessus, Enora.
C'est ça, je trouve qu'il y a un exemple qui est assez concret là-dessus, c'est que si vous connaissez un peu le monde de la musique, des musiciens ou des compositeurs, souvent quand ils commencent, ils reproduisent donc des compositions, par exemple à la guitare. Pour les designers, ça va être pareil. C'est comme ça qu'on se forme, notamment, je sais, avec les Daily UI dans le monde de l'UI et de l'UX. Voilà, il faut recopier des éléments, recopier des designs pour petit à petit se former, se créer, se forger son propre style, sa personnalité et ses méthodes.
Ouais, justement, en plus, là, ça me fait rebondir sur un podcast que j'avais écouté où Bastille UI a été invité à parler, je ne sais plus du tout c'était quel podcast, mais en fait, il disait justement, lui, qui conseillait de se former en recopiant directement en fait les créations des autres pour pouvoir comprendre un peu les tips, comment ça a été créé, les process, pour pouvoir après, plus tard, les appliquer pour son propre besoin. Et donc, ce qui va par la suite nous permettre, ça nous permet de faire des créations, et ces créations-là, après, permettent de faire
un book, un portfolio, et je crois que justement, ce podcast, c'est celui de Underscore, non?
Ah bon? Ouais, peut-être, je sais
peut-être.
Pas. Non, je crois que c'était un autre avant. Je l'avais écouté il y a longtemps.
Hein? Bon, c'est pas grave. Pour ce qui est du book et du portfolio, on va souvent vous le demander et c'est vraiment un gage de qualité pour voir si vous êtes passionné et que derrière vous avez un peu de bac, ça c'est certain. De mon expérience, moi j'avais donc un portfolio papier digital un peu PDF que je gardais pour moi, qui n'est pas du tout présent sur le net, où je mettais vraiment les projets waouh, très concrets, avec des clients, des grosses marques, etc., qui permettaient justement de surprendre l'entreprise. Et ensuite j'avais un petit portfolio, donc comme Behance, Dribbble, Insta, un peu de Pinterest aussi, où je partage mes petites créations, et quand même quelques créations aussi, parce que sinon on pourrait se dire que la fille a un bas niveau. Et c'est là que par exemple, je vais pouvoir partager ça aussi sur LinkedIn. Là-dessus justement, on peut rebondir sur avoir un réseau et partager ses créations, je trouve ça vraiment top. Au début, moi je me suis mis sur LinkedIn pour vraiment partager ma passion et je pensais pas que ça allait avoir une telle influence. C'est derrière, dans les écoles, j'ai souvent entendu dire, toi dans ton expérience, qu'il fallait se mettre sur LinkedIn.
Oui, totalement, totalement. Moi justement, c'est quelque chose que j'ai appris l'année dernière grâce à notre école, la Normandie Web School notamment, c'est qu'il fallait créer un réseau, là en l'occurrence LinkedIn, pour pouvoir augmenter son réseau tout simplement et partager des fois des créations, des publications, reposter, tout ça. Et justement, c'est là où j'ai vu aussi Enora, qui a un réseau assez important sur LinkedIn, qui repartage ses créations et il y a pas mal de personnes qui réagissent.
Ça peut vraiment vous servir. On a un exemple, une fois on a fait un challenge sur le redesign du logo IKEA.
Exactement.
Et ça, c'était vraiment très forgeant comme expérience, parce qu'en fait, ce logo-là, il a fait un peu le buzz. C'était ni un bad buzz, ni un good buzz, mais en fait, le logo que j'avais fait, le I ressemblait au I de TBWA, il était penché, et les gens l'ont associé au meuble qui n'était pas très solide, et qui avait fait des dégâts, notamment chez les enfants.
Ouais, mais justement, du coup, en plus, je me souviens que ce poste-là, généralement, tu faisais, je sais pas, moi, 30-40 likes, et
c'est
ce post-là, t'avais fait 300, un truc comme ça, 300 likes et.
C'était 300 commentaires et des milliers de vues,
ouais,
c'était
plein,
assez.
Plein de commentaires.
Donc vraiment, le réseau, c'est vraiment très très fort. Je pense qu'on pourrait y dédier un sujet complet en tant que designer,
totalement.
Comment se créer son réseau et tout, avec nos propres tips et les tips de d'autres personnes.
Mais c'est justement, c'est quelque chose à ne pas du tout sous-estimer parce que justement, avant l'entretien, si on arrive à se créer ce réseau-là, ça peut nous servir pour pendant l'entretien, mais on y reviendra par la suite.
C'est ça, je trouve que ça apporte vraiment un gage de qualité. La personne sait faire un peu de community management et en plus elle sait appuyer son image sur les réseaux sociaux, elle a de l'expérience et tout, imaginons. Donc ça c'est vraiment cool et ça rassure.
Ouais, parce que justement un dernier point là-dessus, c'est qu'on nous avait appris encore une fois à notre école qu'il faut arriver et savoir se vendre en tant que marque. Quand on arrive dans le monde du travail, dans le monde professionnel, on devient une entité à part entière. Et ça, c'est justement à ne pas négliger. Il faut aussi bosser sa marque d'entreprise, que ça soit dans le domaine du design ou même dans les autres domaines, ça marche aussi. Mais encore plus dans le domaine du design, je trouve.
Oui, surtout parce que y a tout ce qui est brand et tout.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et un tip, ce qui va être cool sur LinkedIn, sur lequel on va pouvoir encore une fois rebondir, c'est que dans la sélection, moi, je mettais mon CV.
Oui, oui, totalement, et voilà, c'est ça. Mais justement, le CV, c'est très important, mais j'ai remarqué, notamment moi, de mon expérience personnelle, que ce qui accompagne le CV, donc la lettre de motivation, est de moins en moins demandé. Donc là, je parle vraiment, encore une fois, je précise, c'est mon expérience personnelle. Moi, dans les derniers entretiens que j'ai passés, on ne m'a jamais demandé ma lettre de motivation, on m'a justement posé certaines questions. On a essayé de juger mon mindset, donc on y revient encore au sujet du mindset.
Tout est lié.
Ouais, voilà, c'est ça totalement. Pour pouvoir déterminer si je suis la personne qui correspond à l'entreprise. Parce que on peut avoir toutes les compétences qu'il faut. Si le mindset colle pas, vous n'allez pas forcément vous entendre avec les personnes, vous n'allez pas coller aux demandes. Et donc c'est vraiment important et je trouve que c'est de plus en plus la norme dans les entreprises pour l'instant auxquelles j'ai été. On m'a posé des questions vraiment sur le mindset.
Complètement. Et je crois qu'un jour, un de nos anciens boss avait dit justement, la personne pouvait avoir le mindset, mais derrière, on pouvait la former.
Oui, totalement. Justement, et c'est ça, c'est le fait que des fois, on n'a pas forcément les compétences recherchées par l'entreprise, mais on s'y rapproche. Et l'entreprise, donc le boss, peut aussi nous demander si ça nous intéresse de suivre une formation, pardon, à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir se former. Et donc, il faut juste avoir le bon mindset en prérequis.
C'est ça. Et aussi, la lettre de motivation, moi, je sais qu'on me l'a demandé que dans des institutions un peu classiques, comme des mairies. Par contre, dans les startups, dans les agences et tout, on me la demande jamais. On me demande plutôt ma motivation, etc.
C'est ça, exactement. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Entre d'un côté, les startups, voilà, les petites entreprises qui veulent vraiment avoir une équipe réduite et qui voilà, ils vont vraiment chercher les bonnes personnes. Et vraiment, les grandes structures ou les structures vraiment classiques, comme tu dis. Je pense que là, c'est sûr, CV, lettre de motivation, c'est la norme pour eux et ça restera la norme pendant un bon bout de temps.
Voilà, ça c'est un vrai sujet, chacun a sa vision des choses là-dessus. En tout cas, il y a un truc que moi je ne supporte pas de voir sur les CV, c'est les bar charts. Et comme beaucoup de personnes, alors vous pouvez dire « Oh non !» Mais en fait, avoir des bar charts, c'est vraiment pas top à mon sens, parce qu'en fait c'est une auto-évaluation, mais par rapport à quoi? Par rapport finalement à votre...
Alors, juste pour préciser, le bar chart, hein, c'est bien la barre de progression qui est apparente sur la partie, par exemple, compétences. Et là, on se dit, moi, je suis compétent à 70% sur Photoshop ou à 4 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire quoi? C'est, comme tu as dit, Enora, c'est suivant ta propre évaluation, ton auto-évaluation. Et tu ne sais pas forcément... si vraiment c'est représentatif en fait directement de ton réel niveau. Justement, là en fait dans ce cas-là, dans le CV, pour nous on trouve que c'est vraiment pas forcément important. Par contre, en entretien, ça peut arriver qu'on nous pose ce genre de questions. Moi ça m'est arrivé justement.
Mais souvent c'est un piège.
Voilà, c'est ça.
Moi je l'ai déjà posé et c'est un piège.
Oui c'est... voilà, c'est surtout pour essayer de voir à peu près comment vous allez réagir à cette question et pas forcément savoir concrètement « Ah oui, vous êtes à 8 sur 10, ah bah c'est super ». Non, c'est vraiment pour savoir si vous êtes plutôt confiant, pas confiant, enfin vraiment savoir comment vous allez répondre, votre manière de répondre.
Souvent derrière il y a un vrai sens. Tout à l'heure, je vous ai aussi dit donc de chercher un panel de 3 à 5 entreprises. Il faut savoir qu'on peut bosser un peu partout dans le design et ça c'est vraiment cool. Donc que ce soit dans des agences de com, des mairies, moi j'ai même travaillé pour l'armée de l'air. Voilà, on peut travailler un peu partout et ça c'est vraiment cool et apporter notre valeur ajoutée. Pour ce qui est vraiment des annonces, souvent on a tendance à regarder sur Welcome to the Jungle, LinkedIn, Indeed, pardon, Wisby, Monster, etc. C'est cool. Mais c'est aussi cool d'aller démarcher soi-même vers les entreprises, comme on le disait au début.
Oui, voilà, c'est ça. C'est faire de la veille d'entreprise et cibler toi-même les annonces. Et par exemple, imaginons, je prends un cas concret, j'ai envie de postuler à AXA, par exemple, pour un poste de motion designer. Et dans les compétences requises, je retrouve toutes les compétences. Par contre, ils demandent d'avoir un bac plus 5 pour pouvoir postuler.
Oh non.
Bah oui, voilà. Et là, à ce moment-là, on peut se dire,
c'est foutu.
Je suis bac plus 3, comment je vais faire? Et bah moi, ce que je ferais directement, c'est que j'irais quand même postuler. Et là, on peut se dire, pourquoi faire ça alors qu'on n'a pas le bon diplôme? Eh bien, parce que ça ne coûte rien, en fait, justement, de tester. Pour moi, de tester directement en entreprise, de tester un entretien.
Au contraire, c'est un bon risque.
Oui, voilà, c'est ça. Dans le pire des cas, ils vont vous dire, non, en fait, vous ne correspondez pas du tout à notre profil. Et dans le meilleur des cas, ils vont peut-être se dire, ok, il a les compétences, mais il n'a pas le diplôme requis. Si ce sont des bonnes personnes, ils vont se dire, ok, nous, on s'en fout du diplôme, on veut les compétences. Donc toujours tester, il faut toujours tester, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
C'est ça, et là-dessus, il est possible aussi que justement, on va prendre un autre exemple dans les compétences, il y a tout, vous savez faire du brand, du motion, blabla, mais à la fin, je ne sais pas, je vais prendre un exemple assez concret, vous ne savez pas faire de JS et de PHP, et c'est marqué qu'il faut absolument savoir le maîtriser. Voilà, vous maîtrisez, on va dire, à 70% tout ce qu'ils disent dans l'annonce, c'est pas grave, vous pouvez aussi tenter. Ça marche très souvent, en plus.
Oui, totalement. Moi, par exemple, dans mon cas, là, à l'heure actuelle, j'ai été recruté dans une agence, dans la même agence, Colbruno, et on m'a demandé, est-ce que je savais faire de la 3D? Et j'avais répondu honnêtement, non, je ne sais pas faire de la 3D. Et ils m'ont demandé si c'était quelque chose qui m'intéressait Et si, voilà, si j'avais envie d'en faire. Et du coup, bah moi, justement, j'adore la 3D, donc j'ai répondu oui. Et bah en fait, justement, je me suis retrouvé à être dans l'agence et être accepté dans l'agence. Et je vais me former, pardon, à la 3D. Donc il faut pas forcément se dire à chaque fois quand il y a les compétences directement de mi, que. Enfin, en gros, ça veut pas dire que ça,
Le cercle est
forcément.
fermé, ouais.
Voilà, c'est ça, c'est bloqué. Voilà.
Et un autre tip que je voulais vous remonter pour cette partie-ci, c'est d'aller regarder les annonces actuelles, les annonces récentes, et de regarder justement les compétences qu'ils demandent en général, et de vous former là-dessus. Exemple, moi je regardais les annonces de Welcome to the Jungle, il y a pas mal de trucs que je connaissais pas, par exemple l'année dernière le Lean Design, et donc je suis allée chercher ce que c'était. Il y avait aussi quelque chose que je ne connaissais pas, c'était l'accessibilité, et donc je me suis formée les sujets. Et aujourd'hui, bah, je suis à jour sans que j'aie besoin d'aller à l'école ou autre. Enfin, ça vient de moi-même, donc ça c'est plutôt cool pour avoir une longueur d'avance sur les autres.
Passons maintenant à ce qu'il faut faire pendant l'entretien. Donc, tout d'abord, il faut savoir se décrire, ne pas s'inventer une vie ou ne pas se décrédibiliser. Je trouve que c'est vraiment important parce que moi, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai toujours été quelqu'un qui se décrédibilisait dans le côté sportif, justement, pour ma part. Et je trouve que maintenant, j'ai réussi à avoir cette capacité à toujours être, on va dire, dans une bonne jauge entre. Pas trop me jeter de fleurs, mais pas non plus m'enterrer.
Heureusement.
Oui, heureusement. Et donc, pour cela, il y a quelque chose qui est très important à faire, c'est travailler son oral, sa capacité à parler. Donc, justement, ça tombe bien parce que c'est un peu ce qu'on fait nous à travers ce podcast. Donc, on essaye de travailler notre oral, mais il faut toujours trouver un moyen, voilà, de pouvoir s'exercer, à prendre la parole. C'est très important.
Ça, c'est un peu du développement personnel. Je sais que ça va paraître un peu égocentrique, mais mon exemple est très concret. Avant, quand je passais à l'oral devant des personnes où je voulais me sociabiliser, j'avais vraiment des grosses difficultés. Justement, quand je passais à l'oral devant les personnes, à chaque fois, je finissais en pleurs. Et ça, c'était vraiment pas cool. Aujourd'hui, voilà, c'est pour montrer que j'y arrive mieux. Et donc, bah, je pense qu'on peut tous y arriver, malgré nos difficultés, et peu importe d'où on vient, etc.
Oui, totalement, bah là oui, c'est clairement ça. Mais justement, ça me fait penser aussi à un truc, c'est que le métier du design, dans le domaine du design, pardon, il est vachement concurrentiel en ce moment. Et donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sur son oral, parce que bah ça peut faire la différence. Donc justement, beaucoup de personnes en ce moment commencent dans le domaine
Ou se reconvertissent
Recon...
là-dedans.
Ouais, voilà, bah, justement, on avait vu quelqu'un encore dans la Normandie Web School, une personne qui avait une quarantaine d'années. Donc, il peut y avoir beaucoup de personnes qui est sur le marché. Et donc, ça commence par se démarquer avec son propre style. Donc, ce qu'on entend par là, c'est à chaque fois, voilà, essayer de créer son univers à travers un branding. Même aussi, bah voilà, sur son CV, ça peut être mentionné un peu l'univers graphique et dans la façon dont on parle, pardon, aussi, quand on se vend, on peut aussi avoir son propre style. Faut toujours rester dans les codes, dans les normes et tout, mais montrer que voilà, on est encore une fois dans ce que je disais tout à l'heure, donc dans la marque personnelle, dans son image professionnelle, il faut arriver à se vendre en tant que marque.
C'est ça, imaginons que vous voulez maintenant recréer votre chambre de zéro, vous allez mettre plein d'éléments décoratifs qui vous ressemblent, donc les couleurs, vous allez ajouter par exemple un canapé qui vous plaît, etc. Pour le CV, pour votre identité et votre style graphique, ça va être un peu la même chose.
Ouais, voilà.
Donc en fait, c'est être soi-même. Par la suite, ce qui va être cool, c'est d'avoir des objectifs. Quand vous allez justement démarcher vers l'entreprise, c'est d'avoir des objectifs à minima à apporter à l'entreprise. Donc imaginons que vous voyez que le site n'est pas forcément top ou vous voyez des axes d'amélioration, vous pouvez les mentionner à l'entreprise. Cela en plus va permettre bah, d'asseoir le fait que vous avez vraiment fait de la veille, de la recherche et tout, et en plus bah, de proposer quelque chose et des missions sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Il y a aussi un sujet qui va être assez controversé, je trouve, c'est les tests de design. Moi, à premier abord, je suis pas forcément fan, mais j'avoue que là, sur notre dernière entreprise, ils ont fait quelque chose qui était plutôt cool, et là, j'ai trouvé ça intéressant.
Oui, totalement. Nous, dans notre entretien, puisqu'on du coup, on a eu le même entretien à une semaine d'intervalle, on nous a proposé de faire une maquette, un redesign d'une maquette, d'une marque ou même d'un sujet qui nous plaît. Enfin, par exemple, moi, ça a été JBL, mais toi, ça a été dans...
Une marque moins connue.
Voilà, une marque moins connue. Et en fait, on devait redesigner toute la homepage, donc la page d'accueil. Et donc là, on était vraiment libre. On nous a dit, faites un redesign, c'est tout, point. Et donc... Après, ce qui ça a permis de mettre en avant donc la démarche d'Enora de son côté, comment elle a procédé pour pouvoir faire son redesign.
Avec et ma méthodologie, voilà. Et toi la tienne.
Exactement.
On a été au-delà du redesign, on a montré aussi par exemple des moodboards, des recherches un peu de persona, etc. On est allé plus loin que ce qui était demandé.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, à la base, on nous avait demandé un travail UI, juste UI design, donc user interface. Et on a été vraiment plus loin en proposant aussi cet aspect user experience, donc l'UX design. Et je pense que ça a vraiment plu du coup par la suite. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont voulu nous prendre tous les deux en fait. Une fois l'entretien terminé, qu'est-ce qu'il faut faire après?
Si vous n'avez pas de réponse de l'entreprise, il faut laisser tomber, ça ne vaut vraiment pas le coup. Ça veut dire que l'entreprise n'a soit pas apprécié ou le profil ne correspond pas. Elle n'a pas de prise en conscience donc de votre valeur, donc on oublie. En plus, ça veut dire qu'elle n'a pas forcément pris le temps de vous répondre, donc c'est un gros non.
En revanche, si la réponse est négative mais cordiale, on peut répondre gentiment, donc en mettant un petit message pour bien dire qu'on a reçu le message, pour avoir une sorte d'accusé de réception.
Et ça donc, fait toujours plaisir.
Ouais, ça fait toujours plaisir. Moi, je sais que j'ai eu des refus, mais... J'en ai eu genre deux ou trois qui m'ont dit « Oui, on peut pas vous prendre, mais merci d'avoir postulé. » Et moi, j'envoie un petit message pour voilà, remercier encore d'avoir pris le temps, parce que c'est encore du temps de pris. Et en plus de ça, il peut s'avérer, moi, dans mon cas, ça a été des fois des réponses négatives avec un message en disant « En revanche, je peux vous proposer de postuler à tel endroit. » Donc vraiment, toujours quand c'est dans ces cas-là, prenez le temps de répondre parce que franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent prendre le temps de répondre à des annonces. Donc voilà quoi, juste pour remercier, c'est la moindre des choses, je pense.
C'est ça. Mais il y a aussi un cas qui est cool, c'est la réponse positive. Et donc là, bah, le sort est entre vos mains. C'est à vous de voir si vous allez dire oui ou dire non.
Dans le cas où vous dites non, il faut donc continuer les recherches. Donc ce qu'on conseille, c'est de continuer les recherches, de ne pas se décourager, de continuer à se former et de toujours donner le meilleur de vous-même. Donc ça peut paraître un peu bateau de dire ça comme ça, mais pour moi, c'est vraiment la réalité. Ça fait toujours partie de ce mindset, du bon mindset qu'il faut avoir lors de recherches de stages, d'entreprises, d'alternance ou de... Voilà.
Dans votre vie même.
Même dans notre vie. Voilà. Donc le podcast, il est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera pour un nouveau podcast d'ici quelques temps. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir.
Et on est réactif.
Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, sur nos comptes personnels et The Morphisme. Et aussi s'abonner sur la chaîne YouTube.
Voilà, merci. Ciao.
Salut.